Radio Capi. Oh,
Capi. Le journal Pierrot et l'ami.
Mesdames, Messieurs, voici le titre de votre journal. Depuis le week-end dernier, plusieurs villages de la chefferie des Bachu au Nord Kivu s'est vide de leurs habitants. Ces habitants craignent de probables attaques des rebelles ADF après avoir découvert des corps décapités au cours du même week-end et le meurtre de 4 personnes dans la zone. Les conditions carcérales difficiles dans la prison centrale de Matadi au Congo central, surpeuplement, manque de nourriture, entre autres, sont là les problèmes qui s'y posent d'après la directrice adjointe de ce centre pénitentiaire que nous suivrons dans ce journal. Depuis quelques jours, une équipe d'experts de la SADC est signalée dans la province du Tanganyika dans le cadre de travaux de traçage d'une ligne de démarcation qui sont en cours à la frontière de la RDC et la Zambie. Et comment avancent donc ces travaux? Jean Manda Kasabala, député national élu de Moba, sera avec nous avant la fin de ce journal. Il est l'invité de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. Plusieurs villages de la chefferie des Bachu au Nord Kivu se vident de leurs habitants depuis le week-end dernier. Des sources concordantes dans la région rapportent que ces habitants craignent des probables attaques des rebelles ADF après avoir découvert des corps décapités au cours du même week-end et le meurtre de 4 personnes dans la zone. Explication Florida Karambou.
Plusieurs sources sur place rapportent que des habitants abandonnent progressivement les villages Katolu, Mutendero, Bulambo, Isonga, Kiadova, Nzaka, situés dans les groupements Isale Bulambo et Isale Kasongwere. Cette situation s'observe depuis le samedi dernier quand 5 personnes, dont une femme, ont été égorgées en pleine journée dans le village Kiadova. Le lundi, 4 autres personnes auraient été tuées de manière similaire à Nzaka Mulinda Makungwe dans le groupement Isale Kasongwere, affirment les mêmes sources. Contacté, le secrétaire administratif de la chefferie des Bachu confirme toutes ces informations. Misisa Moussabae indique que ces événements se sont déroulés dans une zone éloignée des positions militaires. Il ajoute que plusieurs personnes sont également introuvables depuis les événements du week-end. Leur nombre exact n'est pas encore connu. D'après lui, le chef de la chefferie, Mwami Abdul Kalemire III, est descendu dans la zone pour évaluer la situation afin de pouvoir donner plus de précisions à ces sujets. Joint au téléphone, le porte-parole des opérations Sukola 1, capitaine Anthony Mwalushai, a promis de réagir dès que possible. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Et à Ituri, une nouvelle attaque des rebelles des ADF a été signalée lundi après-midi dans la localité de Mahala, sur le tronçon Komanda Luna, dans le territoire d'Irumu. Selon la société civile locale, 2 véhicules sont tombés dans l'embuscade de ces groupes armés après le départ du convoi escorté par la MONUSCO et les FARDC. Le bilan provisoire est de 2 véhicules incendiés et tous les passagers portés disparus. Cette structure citoyenne demande aux conducteurs de ne pas s'engager sur cette route sans escorte. Ezekiel Mouzalia.
Plusieurs véhicules qui étaient stationnés à Komanda ont quitté cette localité lundi matin dans un convoi escorté par la MONUSCO et des FARDC à destination de Luna. D'autres véhicules sont arrivés après le départ du convoi. Parmi eux, 2 chauffeurs d'une voiture et d'un camion qui sont engagés l'après-midi sur cette route et sans escorte, rapporte la CCV du Rumo. Arrivés à Mahala, à 32 km de Komanda, ils sont tombés dans une embuscade des rebelles ADF. Ces derniers ont incendié les 2 véhicules et toutes les marchandises. Selon certaines sources, 3 personnes sont mortes et d'autres sont portées disparues. Le président de la société civile du territoire d'Irumu, Gili Gotabo, déplore l'attitude de certains conducteurs qui ne respectent pas les principes de convoi et les appels à l'ordre.
Et le fusso était parti après le convoi. Toute la population doit respecter les mots d'ordre donnés par l'administrateur militaire. C'est-à-dire, tous les véhicules doivent être convoyés pour éviter des éventuels dégâts.
L'armée lance également un appel aux transporteurs de respecter le programme des convois en attendant la fin des opérations militaires qui sont en cours pour démanteler ce groupe armé. Signalons que cette attaque a provoqué le déplacement de certains retournés de guerre au village Otmaber, Ndimo et périphérie. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Capi.
Voilà, c'était Jean-Claude à la place d'Ezekiel Mouzalia. Restons encore à Ituri, où des miliciens de la Codeco se regroupent depuis la semaine dernière dans plusieurs localités dans les territoires de Djougou. Selon des sources concordantes, c'est en prévision du lancement des opérations de désarmement et démobilisation annoncées par le gouvernement. La société civile de cette entité territoriale demande aux autorités compétentes d'accélérer ces processus pour mettre fin aux conflits armés qui perdurent depuis 3 ans dans cette province. De son côté, le porte-parole de l'armée met en garde ce groupe armé contre toute tentative d'attaque des populations civiles. Isaac Remoyope.
Un mouvement des miliciens de la CODECO munis de leurs armes s'observe depuis la semaine dernière dans plusieurs entités coutumières en territoire de Djougou. Un groupe de ces assaillants s'est réparti des localités de Kobu, Waza et Gutsi, en passant par la forêt Mbaou pour arriver en secteur de Walendupitsi qui sert de lieu de cantonnement. D'autres miliciens se sont rassemblés à Ezeker et à une dizaine de kilomètres aussi de Bounia et vers Fatak en partance dans la même zone. À leur passage, ces assaillants disent être prêts pour le processus de désarmement qui, selon eux, traîne. Vendredi dernier, ils ont tenu un meeting à Ezeker pour rassurer la population et les chefs coutumiers sur leur motivation. La société civile du territoire de Djougou lance un appel au gouvernement en vue d'accélérer les processus des DRCS pour que la population recouvre la paix. Gilles Touba, son président.
Ils sont visibles partout, ils sont prêts pour ça, mais c'est le gouvernement qui nous donne les retards.
Cependant, leur présence inquiète certains habitants qui invitent l'armée à la vigilance. Le porte-parole des FARDC Nitouri indique que les forces loyalistes sont aux aguets pour déjouer toute tentative d'attaque de la population. Lieutenant Gilles Ngongo.
Ils n'ont qu'à rester là où ils sont et qu'ils ne commettent pas des exactions contre notre population.
Pour le moment, aucune date n'est annoncée pour le lancement du programme DDRCS qui est attendu avec impatience par la population. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et au Nord Kivu, l'état des sièges est différemment compris, non seulement par la population, mais aussi par les acteurs dans divers secteurs. Et c'est pourquoi les autorités prennent le temps, dans les différentes rencontres auxquelles elles participent, d'expliquer les objectifs de l'état des sièges. C'est comme l'a fait la semaine dernière à Goma, le commissaire supérieur Jean-Romuald Ekuka Lupopo, vice-gouverneur du Nord Kivu. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'alphabétisation chaque 8 septembre de l'année. Les propos du vice-gouverneur du Nord Kivu sont choisis ici par Rosalie Zawadi.
L'état de siège, ce ne sont pas que les opérations militaires. Mais à travers les opérations militaires, nous cherchons à réitérer l'appel du chef de l'État à nos frères et sœurs égarés qui se retrouvent dans les groupes armés de pouvoir revenir à la raison. Deuxièmement, celles et ceux de frères égarés qui ne veulent pas revenir, qui se sont encroutés dans le mal. Regardez comment on découpe les gens et à gauche et à droite. Nous leur disons que nous allons les engager jusqu'à leur dernier retranchement. Pour celles et ceux qui se sont rendus à qui, entre guillemets, pour la recherche de la paix, nous avons pardonné, nous voudrons bien nous occuper d'eux. Nous les avons gardés ici à Mubambiro, à Rumangabo et un peu ailleurs. Car ce n'est pas seulement par la guerre qu'on résout les problèmes. Ce n'est pas seulement par les opérations militaires, mais aussi par la restauration de la paix.
Sachez aussi que les responsables politico-administratifs et militaires du pays étaient réunis autour du président de la République hier lundi dans la soirée à la Cité de l'Union africaine pendant plus de 2 heures. Selon la presse présidentielle, la réunion était axée sur l'évaluation de l'état des sièges décrétés dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. À en croire la même source, de nouvelles orientations ont été données par le chef de l'État Félix Tshisekedi pour enrayer l'insécurité dans cette partie du pays. Et en bref, les activités économiques sont à l'arrêt pour le 2e jour consécutif dans la ville de Beni, en dépit de l'appel du maire invitant les habitants et les opérateurs économiques à vaquer normalement à leurs occupations. L'activité habituelle qui caractérise Beni n'a toujours pas repris. La majorité de maisons des commerces sont toujours fermées. Cette situation fait suite au mot d'ordre lancé par la société civile locale d'observer 2 jours aux villes mortes lundi et mardi pour protester contre l'insécurité grandissante dans la ville ces dernières semaines. Je le disais tout à l'heure dans les titres, les conditions carcérales dans la prison centrale de Matadi et au Congo central laissent à désirer, d'après la directrice adjointe de ces centres pénitentiaires. Le problème lié au surpeuplement se pose avec acuité, en dépit de l'exécution samedi dernier de l'ordonnance du chef de l'État portant mesure collective des grâces présidentielles, à travers laquelle 40 pensionnaires ont été libérés. Dans une interview accordée ce mardi à Polonia, Longo a invité les autorités tant nationales que provinciales à s'accorder plus de moyens à cette prison pour en améliorer les conditions. Elle a également félicité la ministre de la Justice et garde des Sceaux d'avoir rendu déjà régulière la subvention destinée à cette prison. Apollonia Longo, directrice adjointe de la prison Kamolaï de Matadi, est au micro de Nana Plurich Mambou.
Les conditions dans lesquelles se trouvent nos compatriotes en détention laissent un peu à désirer. La prison centrale de Matadi a une capacité initiale de 150 détenus. Au moment où nous parlons, nous sommes au-delà de 700 parce que nous n'avons que 10 pavillons. Alors c'est ainsi que nous avons toujours demandé aux autorités de pouvoir nous faciliter la tâche pour que les conditions d'incarcération soient améliorées. Les matières des prisons, ce sont des matières concurrentes entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Il faudrait que même au niveau de la province, que l'autorité provinciale puisse vraiment se pencher à la condition d'incarcération. La prison de Matadi, c'est une prison centrale. Mais lorsque vous entrez ici, vous n'avez rien d'une prison centrale. Lorsque vous avez plus de 100 détenus dans un pavillon de moins de 3 mètres carrés, nous sommes en train de louer l'autorité nationale, son excellence, madame le ministre de la Justice, parce que depuis son arrivée, la situation de la subvention, elle est décantée. Maintenant, nous sommes ravitaillés par trimestre, donc le ravitaillement est respecté. Au niveau où nous sommes en train de réclamer, c'est au niveau du montant qu'il faudrait qu'on puisse tenir compte du ratio où on dit 2 dollars par détenu. Si on arrive à ce niveau-là, je pense que ça sera le début du commencement.
Et pendant ce temps, au sud Kivu, la grève des agents administratifs de l'ordre judiciaire de Bukavu préjudicie le bon fonctionnement des activités de la justice. Depuis cet arrêt de travail la semaine dernière, aucun nouveau procès n'est organisé et toutes les audiences prévues sont renvoyées d'office. Radio Kapi s'est rendu au palais des justices de Bukavu pour se rendre compte des conséquences de cette grève déclenchée depuis plus d'une semaine. Maître Moïse Machumou, avocat au barreau du sud Kivu, lance un cri d'alarme pour qu'une solution soit rapidement trouvée et que les choses reviennent à la normale. Il est au micro de Cynthia Bachisi.
Tous les bureaux, les secrétariats, les greffes sont fermés. Comme vous le voyez, c'est presque un désert ici. Maintenant, là, vous me voyez, je devais être en audience. Aujourd'hui, il y a des dossiers qui devaient passer, mais rien ne s'est fait. Si vous êtes en détention préventive ou provisoire, il faut que vous passiez dans la chambre de conseil pour qu'on puisse régulariser la procédure. Mais dans cette situation, il faut avoir la présence des greffiers qui doivent siéger aux côtés des juges dès lors qu'ils ne sont pas là. Et donc, il y aura toute une situation d'irrégularité dans les actes de détention. Et sans parler de ce que si vous devez demander chez un OPJ qui instruit mal les dossiers, il faut demander les dossiers en communication via les parquets. Vous ne savez pas les faire dès lors que le secrétariat ne fonctionne pas, les huissiers ne sont pas là. Et donc, avec cette grève, on comprend la place de ces autres collaborateurs, des juges et des magistrats du parquet. C'est vraiment un cri d'alarme que nous lançons auprès des autorités habilitées.
Rendons-nous dans la province de la Tchopo où la courbe de la pandémie à coronavirus est à la baisse. Et pendant ces temps, l'épidémie de la méningite connaît actuellement plus de 300 cas, dont 151 décès dans le territoire des Banalia. C'est ce qui ressort de la réunion d'évaluation de la situation épidémiologique de ces deux maladies dans cette juridiction. Réunion tenue hier au gouvernorat des provinces sous la direction de l'autorité provinciale Maurice Abibou Sakapela. Explication Jacques Moukonkolé.
Cette réunion a connu la participation des autorités provinciales en charge de la santé ainsi que des partenaires techniques et financiers de ce secteur. Objectif poursuivi par le gouverneur des provinces intérimaires Maurice Abibou Sakapela, en avoir le cœur net par rapport à l'évolution de la pandémie à coronavirus ainsi que celle de l'épidémie de méningite qui sévit dans la zone de santé de Banalia. Par rapport à la pandémie à coronavirus, le chef de la division provinciale de la santé, le docteur Francis Bailongandi, a déclaré que la cour est à la baisse. Après le pic atteint l'avant-dernière semaine avec 97 cas, la semaine dernière n'en a enregistré que 15 et le dimanche dernier, aucun cas n'a été notifié. Concernant l'épidémie de la méningite, le chef de division provinciale de la santé a révélé que 330 cas ont été enregistrés, dont 151 décès à travers les 14 aires de santé de la zone de santé de Banalia, d'où un appel lancé aux partenaires pour plus d'efforts en vue de la mobilisation des ressources. Pour sa part, le gouverneur de province appelé la commission chargée de la riposte contre la COVID-19 ainsi que celle de la lutte contre la méningite à renforcer la communication et la sensibilisation pour le respect des mesures barrières. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Et sur le plan politique, sachez que la plateforme politique Lamuka maintient sa marche pacifique pour ce mercredi 15 septembre. Cette information est confirmée par l'un de ses leaders, Martin Fayoulou, que Radio Kapi a joint il y a quelques minutes. Le regroupement politique Nogek, pour sa part, confirme également cette marche. marche pour ce 15 septembre sur toute l'étendue du territoire national, alors que l'hôtel de ville de Kinshasa leur a demandé de la décaler au vendredi 17 septembre prochain, du moins pour la ville de Kinshasa. Selon maître Constant Mutamba, son regroupement politique n'a jamais reçu une lettre lui demandant de décaler cette manifestation. À la place, ils ont reçu une lettre interdisant formellement cette marche, d'où leur décision de la maintenir pour demain mercredi 15 septembre. Maître Constant Mutamba, coordinateur du NOGEC, a été joint par Blaise Shindani Kambala.
Écoutez, les militants de NOGEC maintiennent l'organisation de la marche de NOGEC pour ce 15 septembre 2021. Et c'est sur l'ensemble du territoire national.
Mais pourquoi vous ne voulez pas obtempérer à la demande de l'autorité urbaine?
Parce que nous n'avons pas reçu de lettre qui confirme les propos du gouverneur. Par contre, nous avons reçu une lettre qui interdit formellement l'organisation ou la tenue dans notre marche.
Qu'est-ce que vous êtes en train de revendiquer au juste? Vous allez marcher pour quoi, maître Constant Mutamba?
NOGEC marche pour exiger la dépolitisation totale de la CEUNIC, parce qu'elle veut d'une CEUNIC totalement neutre. NOGEC veut marcher également pour exiger les consensus autour des réformes électorales en général. Ça veut dire sur la restructuration de la CEUNIC, mais aussi sur la loi électorale. Et c'est pourquoi NOGEC a proposé la mise en place d'une commission quadripartite composée de l'opposition, la majorité, la société civile et des confessions religieuses afin de définir la grille des réformes qui pourra être moulée en loi par le Parlement.
Actualité internationale.
Les rappeurs Simon Kouka et Kilef, deux membres fondateurs du mouvement Yana Mar au Sénégal, ont été déférés au parquet ce lundi 13 septembre. Le premier est poursuivi pour trafic des passeports, le deuxième pour escroquerie sur visa. Toujours en détention, il devrait savoir ce mardi 14 septembre si un juge d'instruction était saisi. Le président russe Vladimir Poutine est tenu de s'isoler après la découverte des cas de COVID-19 au sein de son entourage, a annoncé ce mardi le Kremlin. En raison des cas identifiés de coronavirus dans son entourage, Vladimir Poutine doit respecter un régime d'auto-isolement pendant une certaine période de temps, a précisé la présidence dans un communiqué annonçant que le chef de l'État russe n'allait donc pas participer en personne à un sommet au régional au Tadjikistan.
L'invité.
Dans la province du Tanganyika, je le disais tout à l'heure, les travaux de traçage d'une ligne de démarcation sont en cours à la frontière de la RDC et la Zambie. Une équipe d'experts de la SADC est signalée depuis quelques jours dans la région. Les travaux surviennent après des conflits qui ont surgi quelques mois auparavant à la frontière de deux territoires. Comment avancent ces travaux? Le député national de la circonscription électorale de Moba et notre invité, le député national Jean Manda Kassambala, répond aux questions de François-Xavier Mibé.
Honorable Jean Manda, bonjour.
Bonjour.
Nous apprenons que la commission technique de la SADC séjourne depuis quelques jours dans la région qui couvre la frontière entre la RDC et la Zambie. Et si c'est vrai, de quoi s'agit-il?
Voilà, l'information vraie, c'est que après l'incursion des Zambiens sur le territoire congolais, ils s'étaient plus retirés pour aller occuper les positions initiales telles que c'était recommandé par la SADC. Ils se sont retirés seulement et restés à 7 kilomètres de la frontière sur le mont Kipindi, alors qu'ils devraient aller au-delà de la rivière Kibanga. Alors, maintenant là, il y a une délégation, moi-même, on m'avait demandé que j'aille pour participer à la sensibilisation sur les placements de bornes. Malheureusement, arrivé à Moba, on m'a abandonné, ils sont partis sans moi, je ne sais pas pour quelle raison, mais quand ils sont arrivés au niveau de Molilo, c'est la population qui commençait à indiquer à nos experts que voilà, vous ne connaissez pas la frontière c'est au-delà de Kipimbié, au-delà de Kibanga, alors les experts était bouche bée comme s'il n'avait pas la vraie information. Alors, la population congolaise est mécontente du fait que nos experts congolais, c'est comme s'ils n'ont rien à dire, ils ne font qu'accepter ce que les Zambiens leur proposent. Même ce qui est curieux, c'est que notre délégation, quand elle arrive, au lieu de passer nuit au Congo, elle passe nuit sur le territoire zambien. Voilà, après Moussosa, je dois rentrer encore à Kinshasa pour qu'on puisse aller lire ensemble ces traités-là et voir les bornes définies. Ce sont les nouvelles limites ou bien ce sont les limites héritées de la colonisation?
Dites-nous tout de même, est-ce que les travaux de traçage de la ligne de démarcation au niveau de la frontière d'entre la RDC et la Zambie. Ces travaux sont-ils en cours? Et comment avancent-ils?
Oui, ils sont en train de repérer. Ils ont commencé à partir des points. Pour le moment, ils doivent être du côté Momba et vers Moussosa. Il y a là les travaux, effectivement, les travaux de repérage.
Entre-temps, honorable Jean Manda, les observateurs dans la région notent que les frontières entre la RDC et ses voisins sont le plus souvent naturelles. Comment réagissez-vous à ces constats?
Oui, c'est ça le problème. Au niveau de Momba à Moliro, la frontière naturelle, c'est la rivière ou le ruisseau Kibanga. Il démontre très bien cette ligne droite. Mais si on considère la position actuelle des Zambiens, c'est-à-dire que ça ne sera pas les frontières naturelles. C'est ça le danger qu'il y a.
À vous entendre, est-ce les Congos qui a pénétré dans le territoire zambien ou c'est justement le contraire, c'est la Zambie qui a pénétré dans les territoires congolais?
C'est la Zambie qui pénètre au Congo. Et il y a un obstacle naturel en Zambie au niveau de Kishela, là où leur lac Mwero a occupé, a érodé tout l'espace terrien. Notre frontière touche sur Mwero. Les Zambiens par route sont obligés de passer par le Congo, donc de traverser une partie du Congo pour relier la ville de Kaputa à une partie de Kishela. Pour éviter ça, le souhait c'est que la partie congolaise, si elle appartenait à la Zambie n'aura pas à traverser une frontière congolaise. Voilà, les soucis de la Zambie c'est ça, mais nos experts congolais ne lisent pas de cette façon-là.
C'est comprendre autrement qu'il y a, un problème d'intérêt entre-temps.
Oui, la Zambie a de l'intérêt. À ce moment-là, la Zambie ne pourra pas traverser le Congo. Vous savez qu'en traversant les frontières, il y a toujours des conséquences financières, soit il faut toujours remplir des formalités de traverser. Alors ils veulent commencer à traverser sans formalité.
Et maintenant, si aujourd'hui les travaux pour démarquer finalement cette ligne, si ça rate aujourd'hui et c'est fini, il n'y aura plus à discuter.
Si ça rate aujourd'hui, je crois que les anciennes négociations là, parce qu'il n'y a personne qui reconnaît avoir été là, le chef Manda lui-même, le grand chef décédé, n'avait jamais paraphé à ces accords, mais comment les experts congolais pouvaient aller négocier un espace sans associer les notables ou les autorités locales? Je crois que c'est ça mon credo. Mais quand vous entendez la population congolaise et dit nous sommes pauvres chez nous, nous ne voulons pas céder même pas un centimètre de notre espace terrien.
Honorable Jean Manda, merci.
Merci beaucoup.
Et merci aussi à Willem Lungamba qui a mis en nom de ce journal coordonné par Noëlla Luzitu sous la supervision des Pélé qui Pélé Mondo. Vous pouvez les réécouter sur www.radiocapi.net. Merci de votre fidélité.